Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 3. Marianne ne s'était pas trompée, lorsqu'après avoir bien regardé la détenue, elle avait murmuré à part soi. « Je ne me trompe pas, c'est bien elle !» C'était en effet Henriette qui, en arrivant à la salpêtrière, avait dû, étant donné son état de prostration, être conduite à l'infirmerie. Des soins lui avaient été prodigués en attendant l'arrivée du médecin qui, ainsi que l'avait dit sœur Geneviève, n'avait pas passé moins d'une heure auprès de la malade, chez laquelle il avait constaté une fièvre violente avec complications de mouvements convulsifs et de délire. Il n'avait pas dissimulé à la supérieure, qui le consultait sur la gravité du mal, qu'il fallait attendre que l'accès eût accompli sa période pour voir s'il n'allait pas se déclarer quelque fièvre dangereuse. Et le docteur avait prescrit simplement quelques calmants. Surtout, avait-il recommandé en se retirant, qu'on ne laisse pas la malade seule un instant, car il n'est pas rare que dans ces accès de fièvre qui s'attaquent au cerveau, les malades soient pris de la folie du suicide. La vérité est qu'Henriette, dans son délire, s'était écriée « Laissez-moi, je veux mourir. C'est la honte éternelle. Oh, je suis perdue, perdue !» Dès le lendemain matin, sœur Geneviève était montée à l'infirmerie pour savoir ce qui s'y était passé depuis qu'elle avait, fort avant dans la soirée, quitté le chevet de la nouvelle détenue. On lui apprit, à sa grande satisfaction, que la malade s'était calmée peu à peu, qu'elle s'était assoupie et qu'en ce moment, elle paraissait dormir profondément. Après la grande crise qu'elle avait subie, Henriette semblait vaincue par les efforts nerveux qu'elle avait faits sous l'influence de la fièvre. Cet état de prostration avait duré toute la journée et l'on attendait maintenant la visite du médecin pour savoir ce qu'il convenait de faire. Henriette paraissait être tombée en léthargie. Seule la rougeur qui enluminait ses joues disait qu'elle n'avait pas succombé, car c'est à peine si l'on percevait le jeu de sa respiration. Cet état ne s'était pas modifié lorsque subitement Henriette avait ouvert les yeux. Ses regards interrogeaient toutes les personnes qui se trouvaient auprès d'elle, puis se reportaient avec une expression d'étonnement sur les différents objets qui emplissaient le dortoir. Elle semblait faire un grand effort pour dégager son esprit des brumes qui l'avaient envahi. La force lui revenant, elle avait à plusieurs reprises passé la main sur ses yeux comme pour chasser une vision qui l'obsédait. Puis, tout à coup, la mémoire lui était revenue. Alors, elle avait voulu se lever. Les infirmières s'étaient précipitées pour l'empêcher de rejeter les draps qui la couvraient. On avait voulu la maintenir doucement, lui parlant tout bas pour ne pas l'exciter davantage. Mais bientôt, il avait fallu employer la force pour contenir les efforts désespérés qu'elle faisait pour lutter contre les infirmières. La pauvre enfant roulait des yeux affolés, suppliant qu'on l'habillât pour qu'elle pût partir. Dans l'espoir qu'on gagnerait ainsi du temps jusqu'à l'arrivée du docteur, l'infirmière en chef s'était installée auprès du lit et avait essayé de faire entendre raison à la malade. Pendant que la brave femme lui parlait, Henriette avait paru se calmer. Elle avait compris qu'elle devait donner le change sur le véritable état de son esprit. Ayant l'intention de tout tenter pour essayer de fuir cette prison, elle estima que le meilleur moyen était de simuler une soumission absolue. Donc, elle avait obligé sa voix à redevenir calme et elle avait répondu à l'infirmière, qui s'informait de ce qu'elle éprouvait en ce moment. « Je désirerais me reposer, dormir un peu. » Alors, on l'avait laissée seule et elle avait si bien donné à croire qu'elle dormait profondément qu'on s'était cru autorisé à se relâcher de la surveillance qu'avait recommandé le docteur. Henriette, alors, en avait profité pour reprendre ses vêtements qu'on avait placés sur une chaise au chevet du lit. Puis, une fois habillée, elle avait mis à exécution son projet de fuite. Mais une des infirmières l'avait aperçue au moment où elle allait gagner le couloir qui conduisait à la cour. Les autres s'étaient précipités à sa poursuite. C'est alors qu'avait commencé cette lutte entre la jeune fille exaspérée et les infirmières. De là aussi les cris qui avaient frappé de saisissement la supérieure et Marianne. En voyant venir à elle la détenue, dans un semblable état d'exaltation, sœur Geneviève avait essayé de la calmer. « Mon enfant, lui dit-elle, vous étiez malade. Songez d'abord aux soins dont vous avez besoin. Vous avez eu tort de sortir de l'infirmerie ou le docteur que voici vous avait envoyé. » Le médecin intervint et parlant avec une brusquerie feinte. « Pourquoi avez-vous quitté votre lit sans ma permission ?» Henriette leva sur lui ses yeux rougis par les larmes. « Ah, je vous reconnais, monsieur, » dit-elle. « C'est vous que j'ai vu auprès de moi. C'est vous qui m'avez soigné. » Le docteur avait bientôt repris son ton paternel. Il échangea furtivement un regard avec sœur Geneviève et répondit à Henriette. « Oui, pauvre enfant, c'est moi qui vous ai soigné, et je ne puis autoriser... » Mais la jeune fille devina ce qu'on allait lui dire. Elle joignit les mains dans un geste suppliant, et s'adressant au docteur, « Ah, je suis guérie, monsieur, je ne souffre plus, je vous l'affirme, et j'ai profité d'un instant où l'on ne me voyait pas pour reprendre mes vêtements. Mais j'ai toute ma raison, et puisque cela dépend de vous, dites, je vous en conjure, dites qu'on me laisse sortir, je vous en supplie à genoux. » Mais la malheureuse allait tomber aux pieds du médecin. « Ce que vous me demandez est impossible, mon enfant, » dit le docteur. « Il faut pour donner cet ordre une volonté plus puissante que la mienne. » Henriette interrogeait du regard, un regard qui s'effarait de nouveau. Elle avait maintenant comme un vague souvenir qu'elle essayait toutefois de repousser avec horreur. Et elle demanda d'une voix que l'émotion faisait trembler. « Je ne suis donc pas ici, dans un hôpital ?»« Cet hôpital est aussi une prison, » dit le docteur. Henriette exhala un cri étouffé. « Une prison ? » s'exclama-t-elle. « Ah, je me rappelle ! Oui, ces soldats qui m'ont entraînée ! Cet homme qui leur donnait des ordres ! À la salpêtrière, disait-il. La salpêtrière ! Je sais ! L'hôpital des mendiantes et des folles ! La prison des filles perdues ! » Puis avec une exclamation déchirante. « Ah, mon Dieu, qu'ai-je donc fait pour être ainsi frappée ?» Henriette se tordait les bras de désespoir. En ce moment, la vérité, l'horrible vérité, lui apparaissait tout entière pour lui torturer le cœur. Vaincue par le désespoir, brisée, la malheureuse se laissa tomber sur un banc et pleura. Devant cette douleur si vraie, sœur Geneviève courba le front en proie à une agitation qu'elle s'efforçait vainement de ne pas laisser percer. Trop émue pour trouver des paroles de consolation pour une si poignante affliction, la digne femme avait gardé le silence. Elle levait sur Henriette des regards pleins de compassion, un soupir s'exhala de son sein. Très ému aussi était le docteur. L'excellent homme n'était pas habitué à de semblables scènes de la part des voleuses et des filles perdues auxquelles il était appelé à donner ses soins. Il se disait qu'il y avait là un mystère que plus tard il pénétrerait peut-être, mais il reconnaissait que le mal qui avait frappé la jeune fille n'était pas du ressort de sa science. Et s'adressant à sœur Geneviève, « Ma sœur, » fit-il, « voilà une guérison que seule vous pouvez entreprendre. » Puis il disparut dans le couloir, se rendant à l'infirmerie. « J'ai vu bien des coupables, » dit alors la supérieure en s'approchant, « mais celle-ci... » Marianne se redressa subitement au mot coupable. « Elle ne l'est pas, ma sœur, » s'écria-t-elle avec énergie. « Je l'affirme, je le jure. » Sœur Geneviève parut étonnée. « Vous la connaissez donc ? » demanda-t-elle. Mais déjà, sans attendre qu'on l'interrogeât, Marianne se disposait à raconter ce qu'elle savait de la jeune détenue. Elle abandonna pour un instant la main d'Henriette qu'elle avait tenue dans la sienne. Et parlant doucement, de façon à ne pas être entendue de la pauvre affligée, « Je vous ai avoué, dit-elle à la supérieure, que dans un jour de désespoir, j'avais voulu me tuer. Je m'en souviens. « Je vous ai dit, continua Marianne, qu'alors deux jeunes filles, deux anges de vertu, de sagesse et de charité, m'avaient empêché d'ajouter ce crime à toutes mes fautes. « Oui, répondit sœur Geneviève, j'ai présent à l'esprit le récit que vous m'avez fait. Je me rappelle que ces jeunes filles vous ont aidé de leurs faibles ressources, qu'elles vous ont soutenu, encouragé de leurs pieuses paroles. « Voici l'une de celles qui m'ont sauvée du suicide, dit Marianne. Voici l'un de ces anges que la Providence avait envoyé sur mon chemin. » Sœur Geneviève joignait les mains. « Et c'est ici que vous la retrouvez ? » ?»« Elle est sans aucun doute victime d'une erreur, et je jurerais que pas une faute, pas une pensée mauvaise n'a pu souiller la pureté de son âme. » Puis, s'adressant à Henriette, « Regardez-moi, mademoiselle, et reconnaissez-moi » fit-elle en approchant son visage tout près de celui de la désespérée. « et comme celle-ci avait relevé la tête et regardé à travers les larmes qui voilaient ses yeux, Marianne ajouta « Un soir, sur le quai, cette femme qui voulait mourir !» Jusque-là, Henriette, sous le coup de l'épouvante, et dans l'affolement de son désespoir, avait tout oublié, tout jusqu'aux terribles événements qui les avaient tenus séparés depuis 3 mois, elle et sa pauvre Louise. Mais en entendant la voix qui lui parlait de la femme qui, un soir, sur le pont neuf, avait voulu mourir, Henriette avait poussé un cri. Tout ce passé douloureux le revenait à la mémoire. « Vous, c'est vous !» s'écria-t-elle. Et se levant, elle regarda attentivement Marianne et ajouta « Oui, oui, je me souviens, je vous reconnais !» Puis saisissant dans ses mains fiévreuses le bras de la jeune femme et poussant une exclamation de désespoir « Ah ! Nous étions deux alors ! Vous l'avez vu, ma pauvre petite sœur ?» La malheureuse haletait en parlant, comme si son cœur l'eût étouffé. Marianne, elle aussi, toute à la douleur dont elle avait le spectacle, ne songeait qu'à l'infortunée qui était là, devant ses yeux. Elle oubliait en ce moment qu'elle avait vu la Frochard emmenant la pauvre petite aveugle. « Je le disais à madame, ajouta-t-elle, votre sœur est un ange pur comme vous l'êtes vous-même, car j'en suis sûre, vous n'avez aucune faute à vous reprocher. » « Oui, je suis innocente, madame, » s'exclama Henriette avec véhémence. « J'en prends Dieu à témoin, je jure !» Mais la supérieure interrompit aussitôt. « Ne jurez pas, ma fille, je vous crois. Non, vous n'êtes pas coupable de mensonge, de ce honteux péché qui offense le ciel et qui dégrade ceux qui s'en rendent coupables. » « Non, non, » fit la jeune fille. « Mais alors, » reprit la religieuse, « pour quel motif et par quel ordre vous a-t-on conduite ici ?»« Par ordre de monsieur le comte de Lignières, madame !» répondit une voix, et se démasquant, un homme qu'on n'avait pas vu arriver se présenta tout à coup. La supérieure, étonnée qu'un étranger eût osé pénétrer dans la cour sans y avoir été autorisé, et surtout sans que personne l'eût annoncé, prit un air sévère pour demander « Qui êtes-vous, monsieur ? Et comment êtes-vous entré dans cette maison ?» Alors l'individu qui venait de parler prit un air important et répondit premier valet de chambre de son Excellence le lieutenant de police. C'était effectivement Picard, ce singulier valet, qui avait trouvé, ainsi qu'on le sait, le moyen de servir 2 maîtres à la fois et de s'attirer la confiance de l'un et de l'autre. Depuis que le chevalier avait été conduit à la Bastille, le vieux serviteur avait combiné tout un plan de conduite qui devait lui permettre de se vouer, sans éveiller les soupçons, aux intérêts de son jeune maître. L'amour si vrai du chevalier pour Henriette, amour dont il avait été témoin, l'avait entièrement gagné à la cause de l'ouvrière, tandis que l'affection sincère qu'il portait à Roger s'était, depuis les malheurs du jeune gentilhomme, réveillée en lui avec un redoublement de force, et c'est en se faisant violence qu'il s'était décidé à renfoncer au fond de son cœur le ressentiment qu'il gardait à ce sévère comte de Lignières qui se mettait si brutalement en travers des amours de son neveu. Un instant, il avait songé à quitter le service du lieutenant de police, mais il s'était aussitôt ravisé. Le mieux était, pensa-t-il, de prendre un autre parti, moins moral assurément, mais infiniment plus pratique. Il s'était donc fait une figure de circonstance pour se présenter devant le comte de Lignières, et la conversation suivante s'était engagée entre le maître courroucé et le domestique hypocrite. « Tu vois, Picard, à quelle extrémité j'ai dû me porter pour avoir raison de l'entêtement, de l'obstination du chevalier. Monsieur le comte a été sévère. Sévère. Dit que je me suis montré juste, voilà tout. Juste, mais sévère, monsieur le comte. Et je suis trop irrité contre monsieur de Vaudrey pour éprouver même l'ombre d'un regret de ce que j'ai fait. Alors, le chevalier, hasarda Picard, restera à la Bastille, jusqu'à ce que j'aie obtenu satisfaction de son entêtement. Il n'en sortira que lorsque, faisant amende honorable, il se déclarera prêt à obéir aux ordres du roi. Et Sa Majesté a ordonné que le chevalier de Vaudrey, qui doit occuper à la cour un rang digne de lui, digne de ses ancêtres, épouserait la personne que le roi a choisie pour lui. Ne devrait-il pas être flatté de cette faveur insigne? N'aurait-il pas dû aller se jeter aux pieds de Sa Majesté pour la remercier? Loin de là, il se permet, lui et un Vaudrey, d'avoir des amours de courtaud de boutique. Aussi, j'ai mis bon ordre. Cette fille, une intrigante sans doute. Oh non ! Tu oserais la défendre, toi ? Picard n'avait pu retenir l'exclamation. Il chercha à l'expliquer. Lorsque j'ai dit « Oh non, monsieur le comte, cela ne signifiait pas que je prenais fait et cause pour cette demoiselle. Dieu me garde de trouver mauvais ce que monsieur le comte a trouvé juste et bon. Je voulais au contraire dire que le chevalier n'aurait pas dû méconnaître les bontés de monsieur le comte. » Et appuyant jésuitiquement sur les mots « Oh non, il n'aurait pas dû les méconnaître. » Maintenant, continua le magistrat, que j'ai pris mes mesures, aucune considération, aucune supplication, d'où qu'elle vienne, ne m'empêcherait de faire disparaître cette dangereuse créature. J'ai décidé que la maîtresse éhontée du chevalier de Vaudrey partirait pour la Louisiane. Elle ira grossir le nombre des filles perdues dont nous voulons purger Paris. Elle partira pour la Louisiane? Quand cela, monsieur le comte? Demanda avec anxiété le vieux domestique. Pour la seconde fois, Picard manquait de prudence dans le rôle qu'il s'était décidé à jouer. Mais le comte était trop irrité en ce moment pour s'en apercevoir. Et il répondit « Le prochain convoi quittera Paris dans quelques jours. Cette fille fera partie de ce convoi. Je vais donner des ordres à ce sujet. » Tout en parlant, le lieutenant de police se mit à écrire quelques lignes sur un papier marqué de son sceau. Le valet le regardait faire et involontairement, il se prenait à tressaillir à l'idée du désespoir qu'allait éprouver le chevalier lorsqu'il apprendrait la terrible nouvelle. Tout son sang lui montait aux joues, au point de le rendre absolument cramoisi. Comment pourrait-il prévenir le chevalier? Que pourrait-il faire pour empêcher cette double catastrophe, la déportation d'Henriette et ce qui en résulterait pour Roger? Il n'avait pas compté là-dessus et l'événement le surprenait au dépourvu. Soudain, M. de Lignières repoussa son fauteuil et prenant le feuillet qu'il avait couvert de sa grosse écriture administrative, il sonna, remit le pli à l'huissier qui se présenta et dit à celui-ci « Ce pli à monsieur le lieutenant criminel au Châtelet !» Picard ne tenait plus en place. Il avait d'abord fait mine de suivre l'huissier qui se retirait, puis il était revenu se placer devant le bureau, supposant que le comte allait se rasseoir dans le fauteuil. Mais monsieur de Lignières, très agité, s'était mis à arpenter son cabinet de long en large. Picard le suivait pas à pas, approuvant du regard, de la voix et du geste tout ce que disait son maître. Au surplus, la conversation l'intéressait singulièrement, car il était exclusivement question du chevalier de Vaudrey. Le lieutenant de police se promettait d'être inflexible dans la punition qu'il infligeait à son neveu. Il restera en prison. Longtemps? Aussi longtemps qu'il n'aura pas fait capituler son orgueil insensé devant le désir du roi. « Mais, balbutia Picard, il y a des prisonniers qui sont restés des années et des années à la Bastille. D'autres n'en sont jamais sortis. Mais lui, monsieur le comte ne le laissera pas mourir sur la paille d'un cachot. » Le domestique faisait en ce moment si comique figure que le comte de Lignières sentit sa colère s'évanouir. Il s'arrêta devant le valet, qui, de cramoisi qu'il était l'instant d'auparavant, était devenu pâle comme un mort. Et il lui dit avec un fugitif sourire. « Rassure-toi, quel que soit mon courroux contre le maître, au service duquel je t'avais placé, je sais tout l'attachement que tu as pour lui. Tu serais même porté à l'indulgence pour ces fautes que tu t'obstines, j'en suis persuadé, à considérer comme de simples peccadilles. Aussi, ne dois-je pas te laisser supposer que le coupable finira ses jours dans une des oubliettes du donjon. Non, je l'ai recommandé d'une façon toute spéciale au gouverneur. » « Ah, c'est bien, c'est généreux !» ne put s'empêcher de s'exclamer Picard. Puis avec intérêt, « Il est recommandé tout spécialement ?»« Oui, Picard, il dort dans une cellule qui est presque une chambre à coucher. Par les soins de gouverneur, le geôlier vient souvent s'assurer qu'il n'a besoin de rien. Au surplus, ce guichetier, fin d'enfreindre criminellement ses devoirs en se proposant au chevalier pour lui acheter, au dehors, tout ce qu'il peut désirer. Tu vois, mon bon Picard, que de là à la paille humide des cachots, il y a loin. » Le valet avait écouté avec surprise tout ce que lui débitait, sur le ton familier, le comte de Lignières. Et peu à peu, son visage, naguère encore si bouleversé, prenait une expression plus calme, presque de satisfaction, même. On eût dit à le voir, à présent, qu'il avait déjà trouvé le moyen de communiquer avec le chevalier de Vaudrey. Le comte de Lignières avait alors congédié le domestique en lui recommandant de se préparer à rentrer au service du chevalier dès que celui-ci se serait amendé. Mais Picard avait le diable dans le sang depuis qu'il avait appris la façon dont était traité le chevalier à la Bastille. Il ne se fit donc pas répéter deux fois de se retirer. Aussitôt rendu à lui-même, le brave homme était monté dans sa chambre pour y ruminer tout un plan d'évasion qui permettrait au chevalier de Vaudreix de recouvrer sa liberté assez à temps pour pouvoir à son tour délivrer Henriette. Dans son exaltation, il ne voyait rien de plus facile que cette double évasion préparée par lui et qui s'accomplirait au nez et à la barbe du lieutenant général de police. Il surmontait toutes les difficultés, enfonçait toutes les portes, préparait le coche indispensable, s'assurait des relais et emmenait les deux amoureux qui iraient faire bénir légitimement leurs noces à l'étranger. Et lui, heureux de leur bonheur, se condamnait avec eux à un exil éternel. Quelque original que fût le caractère du vieux domestique, jamais encore dans sa longue carrière, il n'était arrivé à ce degré de fantaisie. Il ne lui paraissait ni impossible ni excessif de lutter contre la volonté et la puissance d'un lieutenant de police et d'arriver à triompher de tous les obstacles qui s'offraient à son esprit à chaque pas qu'il ferait dans la voie qu'il s'était tracée. Pendant plus d'une heure, Picard avait donc amoncelé dans son cerveau 100 idées extravagantes avant de s'arrêter à l'une d'elles pour commencer. Cependant, la raison finit par reprendre le dessus sur toutes les folies qu'imaginait le domestique, et celui-ci estima que ce qu'il y avait de plus pressé, pour le moment, c'était de tenir la promesse qu'il avait faite au chevalier, à savoir trouver le moyen d'arriver jusqu'à Henriette, rassurer autant que possible la jeune fille sur l'issue de cette épouvantable aventure, lui porter de la part de Roger l'assurance qu'il lui conserverait fidèlement son amour, que rien ne pourrait l'empêcher de lui donner son nom, l'exhorter enfin à prendre patience avec la certitude que l'épreuve si cruelle qu'elle subissait ne serait pas de longue durée. « Oui !» s'était écrié Picard en repassant dans sa tête tout ce que le chevalier lui avait dit de son amour pour Henriette. « Ce serait un crime de laisser cette pauvre petite se livrer au désespoir. Je ne le ferai pas. Dussé-je escalader nuitamment les murs de la salpêtrière et mettre en fuite toute cette volée de nonnettes qui l'habitent. » Et s'animant à ses propres paroles, comme s'il eût lutté contre un adversaire lui opposant les difficultés probables, enfermer cet ange avec des démons, lui faire partager la prison des voleuses et des filles de mauvaise vie, l'obliger à se souiller au contact de ces misérables créatures, allons donc, c'est affreux. Et moi, Picard, si j'étais lieutenant de police, je n'aurais jamais eu le courage de faire pleurer ces beaux grands yeux et de mettre ce bon petit cœur au supplice. Que diable, monsieur le comte, nous sommes gentilshommes, et bons gentilshommes, je m'en vante. Mais cette délicieuse jeune fille est si chaste, si pure, si candide, si adorablement belle, qu'il nous est bien permis, et sans trop déroger, de rendre hommage à tant de charme. Et puisque notre neveu, puisque cet heureux coquin du chevalier a su se faire aimer d'elle, eh bien, soyons grands et miséricordieux. Ouvrons nos bras à ce cher petit ange, et qu'elle soit notre nièce. » Ainsi se parlait maintenant à lui-même ce Picard naguère encore si sceptique, si entiché des titres et des parchemins de ses nobles maîtres. La simple rencontre d'une honnête fille et le spectacle d'un véritable amour avaient purifié ce cœur à demi gangréné. Picard avait décidé qu'il se rendrait dès le lendemain à la salpêtrière, qu'il s'y présenterait bravement, comme s'il était envoyé par le lieutenant de police lui-même, qu'il verrait Henriette, coûte que coûte. Ce serait le diable, pensait-il, s'il ne parvenait pas à relever le courage de la chère demoiselle. Donc, il n'avait rien changé à ce programme lorsqu'il se présenta, en qualité de premier valet de chambre du comte de Lignières, qualité qui lui ouvrait toute grande les portes de cette maison de détention. « Comment ? » s'était exclamé sœur Geneviève en toisant le valet. « C'est par ordre de votre maître, monsieur le lieutenant de police, que cette jeune fille... » Son regard allait alternativement de Picard, qui voulait se donner une contenance assurée, à Henriette, dont les yeux s'étaient fixés sur le domestique de Roger, comme pour l'interroger. Mais Picard avait hâte lui-même d'entrer sérieusement en scène. Aussi se permit-il d'interrompre la supérieure avant que celle-ci eût achevé sa phrase. « Hélas, ma sœur, » fit-il en prenant un air apitoyé, « Les hautes positions imposent quelquefois de cruelles nécessités. Que voulez-vous dire ? Qu'un jeune homme, continua imperturbablement Picard, s'éprenne d'une folle passion pour une jeune fille certainement fort jolie. Il avait à la dérobée décoché un regard à la jeune fille stupéfaite de ce début. Honnête même, poursuivit-il, je consens à le croire. Que voulez-vous, ma sœur ? Il faut sauvegarder l'honneur d'une illustre maison. Et l'on fait disparaître l'objet de ce coupable amour. Sœur Geneviève avait baissé les yeux. Elle comprenait maintenant pourquoi on avait emprisonné la jeune fille. Et déjà, elle en voulait doucement à Marianne de lui avoir, avec tant d'assurance, parlé de la vertu de l'inconnu. Mais Henriette ne lui donna pas le temps de demeurer sous cette impression pénible. Elle avait ressenti profondément l'aiguillon caché dans la réponse embarrassée du domestique. La rougeur lui était montée au visage et elle avait répliqué avec vivacité en s'adressant au valet de Roger. « Mais n'avais-je pas, et devant vous-même, refusé la main du chevalier de Vaudrey ?» La supérieure avait écouté, espérant qu'Henriette allait, sinon, se justifier complètement, du moins atténuer à ses yeux l'importance de la faute commise. En entendant la réponse de la jeune fille, son émotion s'était manifestée. Heureuse de s'être trompée, elle avait aussitôt pris la parole. « Elle a fait cela ? » demanda-t-elle avec empressement à Picard. « Est-il vrai, monsieur ?» Le brave homme, dont le cœur battait bien fort, prit un air naïf, dissimulant un fin sourire. Et c'est en soupirant qu'il dit « C'est vrai, je suis forcé d'en convenir !» Ces mots étaient la réhabilitation d'Henriette. Sœur Geneviève avait ouvert ses bras comme si elle y eût appelé la jeune fille. Et de sa voix émue, elle dit à cette affligée qui, honteuse d'avoir eu à se justifier, se cachait le visage dans ses mains. « Oh, pauvre enfant ! Et on la jette ici, comme une coupable !» Marianne aussi s'était approchée d'Henriette et respectueusement, elle lui avait pris les mains pour l'obliger à découvrir son visage. « Que vous disais-je, madame » fit-elle. Puis, dans un élan d'enthousiasme pour celle dont on avait fait une martyre, elle embrassa avec effusion les mains de l'orpheline. Picard aussi était ému, attendri. Il vit le moment où il allait pleurer. Et faisant un effort pour se contenir, il ramena la conversation sur le sujet qui l'intéressait particulièrement. Il s'agissait, en effet, d'obtenir de la supérieure l'autorisation de causer seule à seule avec la fiancée de Roger. Faisant alors allusion aux paroles qu'avait prononcées la jeune fille pour se disculper d'avoir voulu influencer le chevalier et le pousser à la désobéissance, aux volontés de son oncle et aux désirs du roi, « Vous avez refusé la main du chevalier de Vaudrey ?» C'est la vérité exacte, dit-il à la jeune fille. Mais ce beau sacrifice ne suffit pas, et vous le comprendrez vous-même, mademoiselle. Puis s'inclinant respectueusement devant sœur Geneviève, « Et si madame la supérieure, ajouta-t-il, peut bien m'autoriser à vous transmettre la volonté de ce monsieur le lieutenant de police ?»« Faites, monsieur, dit sœur Geneviève, nous vous laissons. » Et s'adressant à Henriette, « Du courage, mon enfant, dit-elle. » Et elle se retira, suivie de Marianne, qui, en passant près d'Henriette, lui dit également ces mots. « Du courage !»